Je voudrais donc avec vous lire dans l'Évangile la souffrance d'un homme qui représente Dieu. On va lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 12. Dieu souffre-t-il ? Est-il dans son lit, tranquille, avec ses enfants et sa famille ? Et nous, à côté, on rame. On n'avance pas. On dort dans la tristesse. Je lis avec vous, donc, Marc, chapitre 12, verset 2. Verset 1er. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il afferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent. Puis plusieurs autres, vraiment la persévérance, hein, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Nous pouvons arrêter notre lecture ici. Amen. Une triste histoire d'un homme qui a un fils bien-aimé, qui l'envoie pour chercher son dû. Et ce pauvre fils bien-aimé va mourir. Vous imaginez la souffrance du père et de la mère et des grands-parents et des frères. On sent bien que ce vigneron représente Dieu. Et on se pose la question, Dieu souffre-t-il? Ou est-il tranquillement chez lui en nous disant, mes amis, continuez, bon courage, vous ne me touchez pas. L'amour est lié à la souffrance. Une mère qui aime, forcément, elle va souffrir. Si on ne souffre pas, c'est qu'il y a de l'indifférence, donc pas de l'amour. Dieu souffre-t-il ? Dans la Bible, j'ai beaucoup de mal à vous montrer ce que Dieu pense et ce que Dieu ressent. Au baptême de Jésus, quand Jésus a été baptisé, plongé dans l'eau par Jean-Baptiste, il est dit que le ciel s'est ouvert, exactement s'est déchiré. Et exactement déchiré avec douleur. Idée de douleur. Est-ce que c'est un signe de la douleur du Père qui nous envoie Jésus, il se sépare de Jésus qui va mourir pour des gens qui vraiment peut-être sont les pires de la création. Jésus-Christ parle souvent de ses souffrances. Il parle même de nos souffrances, des souffrances des apôtres, mais jamais le Christ n'a parlé de la souffrance de son Père. Comment réagit-il ? Au baptême, je vois l'amour de son Père pour son Fils bien-aimé. Il dit : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quand Jésus est transfiguré, Dieu parle encore et il dit : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. De l'amour, de l'amour. Mais à la croix, devant ce Fils qui meurt dans la douleur, que dit le Père ? Que fait Dieu ? Vous savez que la croix a été une épée qui a transpercé le cœur de Marie ? On lui avait dit quand Jésus est né, une épée te transpercera l'âme. Et à la croix, je dis qu'une épée de douleur a transpercé le cœur de Marie, mère de Jésus. Et le Père, Dieu, est-ce que la croix a transpercé son cœur ? Jésus parle une fois de la douleur de son Père, discrètement, dans une parabole, la parabole des vignerons, avec pudeur, pas trop, comme si cette douleur, chut, on n'en parle pas, elle est cachée, elle est discrète, on n'en fait pas de l'étalage, c'est un secret. Tout le monde a compris que le maître de la vigne, c'était Dieu, et que ce Fils bien-aimé qu'il envoie, c'est le Christ, bien sûr, tout le monde l'a compris. Et il envoie son Fils en toute confiance. Il dit, ils auront du respect pour mon Fils, autrement dit, ils l'aimeront, ils l'accueilleront, ils le recevront chez eux, ils se laisseront toucher par mon Fils. Mais les vignerons, quand ils voient le Fils, ils le tuent. Ils le jettent hors de la vigne, c'est-à-dire sur la terre, comme une balayure, en proie aux corbeaux. Comme une balayure, il est jeté sous les regards de tous, ce Fils bien-aimé qui vient de la part de son Père. Et Jésus continue l'histoire en disant, que fera le Maître ? Que fera Dieu ? Il viendra. Donc il verra le cadavre de son Fils. Il verra la mort de son Fils. Et quelle réaction ce Maître de vigne ? Comment est-ce qu'il va réagir ? Je ne sais pas. Jésus ne dit pas un mot sur la douleur de son Père, qui espère que nous aurons du respect pour son Fils, de l'amour, de la confiance. Jésus ne dit pas un mot. Il parle de sa souffrance, je le répète, jamais de la douleur de son Père, comme si la douleur de son Père, ça ne se disait pas, ça ne se raconte pas. On ne peut pas la comprendre, ça ne fait pas partie de notre intelligence. Il faut se taire, c'est grandiose, c'est mystérieux, il faut se taire, il faut laisser cette douleur parce qu'on ne peut pas la comprendre. C'est la seule fois où Jésus parle de la douleur d'un maître de vigne qui représente son Père. Allons à la croix. Regardons ce qui s'est passé le jour de la mort de Jésus. Silence de Dieu. Dieu voit son Fils qui est crucifié entre deux brigands. La nuit tombe à midi. Tout son sang part. Il est moqué, on crache sur lui. Et le Père ne dit rien. Peut-être que dans son cœur, il n'y a que cette pensée, ils respecteront mon Fils, ils le respecteront. Il ne dit rien. Est-ce que le Père a souffert à la croix? Il y a quand même un petit détail au moment de la mort de Jésus. C'est le voile déchiré. Vous avez l'histoire. Quand Jésus est mort, le voile du temple, un grand voile, s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. C'est la deuxième fois dans la Bible que je vois une déchirure de souffrance. La première fois, quand Jésus a été baptisé, le ciel a été déchiré. La deuxième fois, à la mort, le voile a été déchiré. Autrefois, quand on passait dans un deuil, quand on perdait quelqu'un de cher, on déchirait ses vêtements. Il y avait même une petite encoche toute prête d'avance, qui était toute faite. On déchirait ses vêtements. Et ce voile qui s'est déchiré, il me fait penser à un geste de douleur du Père, la douleur de Dieu. Au baptême, le ciel se déchire, à la mort, la terre se déchire, le voile se déchire, des rochers sont cassés, des tombes sont ouvertes par la puissance de Dieu, des morts ressuscitent, la terre est ébranlée, tout est déchiré. Eh bien, ce voile déchiré nous montre le cœur déchiré de Dieu. Le cœur déchiré de Dieu. Et quand Dieu pousse, quand le Christ pousse un grand cri à la croix, pourtant il était faible, mais en mourant, il va pousser un cri. Et dans ce cri, je vois la douleur de Dieu, la douleur du Père, la douleur de Jésus. Dieu est comme un orphelin, il a perdu son fils. Dans les ténèbres de la croix, c'est la pleine nuit, à 3 heures de l'après-midi, la mort de Jésus a blessé l'amour du Père. Le ciel se déchire. Mais ça ne dure pas longtemps. Tout de suite, un brigand, là, à côté, se convertit à Jésus et Jésus l'emmène avec lui dans le paradis. Tout de suite, les tombeaux s'ouvrent et des morts ressuscitent. Tout de suite, nous voyons les lueurs de Pâques. Tout de suite, la vie reprend. Marie est consolée par Jean. Les disciples voient la mort de Jésus et un soldat dit, vraiment, c'est le Fils de Dieu, vraiment. Mes amis, le bonheur de Dieu, comme votre bonheur, dépend des autres. On ne peut pas être heureux tout seul. Et le bonheur de Dieu dépend de nous. Tout ce qui va contre la vie, tout ce qui va contre l'amour, toutes nos paroles sans respect, sans vérité, tous nos gestes mauvais, blesse, déchire le cœur de Dieu. Un péché, c'est pas seulement un mauvais pas. Le cœur de Dieu est blessé. C'est pourquoi il faut revenir à ce Dieu qui pardonne. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Rotterdam, aux Pays-Bas, a été bombardée. Toute la ville est tombée, avec des milliers de morts. Et après la guerre, on a mis une statue dans la ville, une statue qu'on a appelée l'homme au cœur déchiré, parce que Rotterdam est tombée, l'homme au cœur déchiré, à cause des bombes. Et je pense que nous avons des bombes qui montent. Autrefois, les bombes tombaient. Mais nous avons des bombes qui montent vers Dieu et qui écrasent le cœur de Dieu, qui blessent Dieu. Quelle bombe ? Qu'est-ce que nous faisons ? Quand nous disons devant le désordre du monde, il n'y a pas de Dieu. C'est une bombe qui monte dans le cœur de Dieu. Comme devant un jardin plein de ronces, on dit, il n'y a pas de jardinier. le jardinier n'existe pas. Et devant la situation de nos familles, de notre monde, eh bien, on dit « Dieu n'existe pas ». Mais dans les psaumes, on voit souvent ça. Dieu ne sait pas, Dieu ne voit pas, Dieu n'entend pas. Ça, ce sont les moqueurs qui disent cela. Et Dieu le laisse croire qu'il n'existe pas. Quelle douleur! Parce que Dieu veut que nous soyons libres. Libres d'être d'accord avec lui. Libres de ne pas être d'accord avec lui. Libre de l'aimer ou de le refuser. Nous sommes les vignerons. On a frappé d'autres, on a frappé le cœur de Dieu. On a frappé à la tête dans la parabole, frappé sur la tête. On a outragé. Quel désordre! Notre Créateur, notre Maître, celui qui donne la vie, on l'a blessé, blessé à mort. Il souffre, et il ne le dit pas, il le cache. Il faut mettre de l'ordre dans tout ça, non? Il faut mettre de l'ordre. Il faudrait que Dieu vienne avec ses blindés, non, vous ne trouvez pas? Et qu'il remette de l'ordre partout. Comme dans un foyer qui allait mal, le couple s'entendait mal, les enfants étaient malheureux. Tout à coup, le père a dit désormais, attention, c'est moi qui commande, et personne ne bouge. Et puis toi, tu vas là-bas, et puis toi, tu vas là-bas, et puis personne ne bougera. Je crois que la réponse, c'est plutôt s'aimer. Et quand on s'aime, l'ordre revient, non? Et Dieu, il ne met pas de l'ordre en envoyant sa force, ses blindés. Il met de l'ordre en nous aimant. Il leur envoie son Fils bien-aimé pour leur dire « Je vous aime et je vous donne mon Fils. » Mais ils ne comprennent pas cet amour-là. Nous ne l'avons pas compris. Dieu ne force pas. Dieu veut nous toucher seulement. Dieu ne veut pas nous vaincre, mais nous convaincre. Dieu nous envoie son Fils pour nous dire « Ils verront que je les aime, ils verront que je m'intéresse à eux, ils verront que je les aime le premier, avant qu'ils m'aiment, moi je les aime. Avant qu'ils bougent, j'ai bougé. » Et à partir de ce Fils, l'amour va se répandre dans notre vie et tout va se remettre en ordre. Mais tout le monde n'accepte pas ça. Il y en a qui disent non. Il reste dans les ténèbres. Et là, les ténèbres peuvent refuser la lumière de l'Évangile. Ils sont dans la noirceur de l'alcoolisme, du péché, de toutes sortes de dérèglements sexuels, mentaux. Les ténèbres refusent la lumière. On peut refuser Dieu. Mais l'amour de Dieu nous dit « Mais je t'aime et je continuerai de t'aimer. » Et puis d'autres acceptent l'amour du Christ. Et voilà qu'en acceptant cet amour du Christ, eh bien, il y a de la joie dans le ciel. Le cœur de Dieu qui est déchiré se recoue. Notre vie se recoue. Nous voici reliés à nouveau à Dieu, rattachés à Dieu, greffé sur Dieu, on est porté par Dieu, on est délivré de la boue et la fosse. Dieu nous offre son Fils. Nous l'avons refusé. Notre péché a blessé le cœur de Dieu qui souffre. Mais aujourd'hui, le Christ nous est à nouveau proposé. Et il y a un mot de la Bible que je trouve magnifique sur Dieu. C'est son premier mot. Quand Dieu s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis le Seigneur compatissant ». Ça veut dire quoi, compatissant? Ça veut dire « Je souffre quand vous souffrez ». Voilà, la seule fois. « Je souffre quand vous souffrez ». Et dans Jérémie, le prophète, Il y a un petit mot qui dit « Je voudrais une cabane dans le désert pour pleurer sur la souffrance de mon peuple. » Dieu est pudique. Il ne montre pas sa souffrance. On ne pourrait pas la comprendre. Il préfère dire « Je voudrais être dans le désert et pleurer, pleurer, pleurer sur vous jusqu'à ce que vous acceptiez le cadeau, le grand, le plus beau, Jésus-Christ. » Crucifié, ressuscité, revenant bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Dieu se tait aujourd'hui. Enfin, il parle avec la Bible, mais il se tait, mais il vous attend. Et quand vous vous jetterez dans ses bras, vous saurez qui il est. Et vous saurez que la vie, c'est le connaître et le suivre pour toujours. Amen. Je prie pour vous. Je prie pour vous maintenant et je vous invite à fermer vos yeux quelques instants, si vous le voulez, et je vais prier. Devant cet amour, nous voulons t'ouvrir notre cœur. Tu nous as ouvert le ciel, nous voulons t'ouvrir notre cœur. Tu nous as ouvert un avenir, nous voulons t'ouvrir notre cœur. Tu nous as ouvert une maison dans le ciel. Nous voulons t'ouvrir notre cœur. Seigneur, tout vacille, tout bouge aujourd'hui. Toi, tu es le seul qui demeure, qui reste. Et devant le monde, devant notre vie, devant tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous fait pleurer, tout ce qui nous donne des craintes, des tristesses, des angoisses pour demain, dans nos maladies, nos troubles, nos difficultés, tu souffres pour nous, tu nous envoies du secours, tu nous parles, tu nous relèves, tu nous guéris, tu nous transformes, tu es un Père admirable, admirable, qui serre son enfant dans ses bras et qui nous dit « Tu étais perdu ». Et maintenant tu vas vivre. Tu étais loin et maintenant tu es proche. Bénis chacun de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Quelques instants devant le Seigneur. Cet amour que je ne pourrais vous décrire, l'amour ne s'explique pas tellement, ça se vit. Il n'y a pas de manuel, de livre pour apprendre à aimer. Ça se vit. C'est quelque chose qui passe, c'est un courant qui passe entre quelqu'un et nous, entre Dieu et nous. Mais l'amour guérit. L'amour recoue la vie. Alors nous allons ouvrir notre cœur à ce Christ. Et puis parmi nous, si quelqu'un est dans un grand chagrin, une peine, une souffrance, une inquiétude, un désordre qu'il ne peut pas remettre debout et qui blesse Dieu, je vous invite à vous approcher.